C'est bon? Eh bien, mardi 3 octobre 2023, première séance consacrée à la question du temps, qui est le thème de l'année 2023-2024. Alors, nous disons, je me fais l'écho de ce qu'on dit, hein, nous disons que le temps passe. Mais est-il bien vrai qu'il passe ? Et si j'en crois le poète Ronsard, dans un sonnet donc à Marie, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Et vous avez les quelques vers hein, de Ronsard que je vous ai mis en exergue. Oui ?
Nous passons.
Comment ?
Nous passons, mais aussi nous en perdons.
Je n'entends pas très bien.
On passe, donc le temps passe.
Oui ? Et nous, c'est nous qui passons.
On en perd.
Nous perdons du temps.
Non, je n'ai pas très bien compris, mais bon.
On perd du temps.
Ah non, c'est nous passons au sens où nous disparaissons. C'est plus grave. Si ce n'était que nous perdions du temps, bon, ma foi. Alors, donc, vous voyez les vers de Ronsard, le temps s'en va, madame, las, le temps non, mais nous nous en allons, étaux seront étendus sous la lame c'est le tombeau. Hein. Donc qu'est-ce donc que le temps, dont nous disons peut-être à tort, certainement à tort, qu'il est ce qui passe ? Est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui fait que tout passe, sauf lui. Sauf lui. Donc, quelle est sa nature? Quel est son mode d'existence? Voilà les questions qu'il va falloir aborder. Mais avant d'être objet de réflexion, le temps est vécu. Et avant donc de nous demander quelle est sa nature, il convient de décrire les diverses manières de le vivre. Et au sein de notre expérience du temps, je crois qu'on peut distinguer deux manières de le vivre qui s'opposent par bien des aspects. On peut parler ainsi d'un temps existentiel et puis d'un temps opératoire. Alors, le temps existentiel désigne au fond la manière dont nous subissons le temps qui relève de l'émotion, de l'affectivité. Ainsi, le temps semble long à celui qui a faim et puis qui doit attendre l'heure du repas. Il paraît long aussi à celui qui est cloué au lit par une maladie et qui doit prendre son mal en patience. On subit le temps quand on est contraint d'attendre, quand on se trouve à la merci d'un événement à venir, qu'on le craigne ou qu'on l'espère. Et plus directement, on souffre du temps lui-même quand on n'attend plus rien, quand il ne se passe plus rien, quand on est condamné à subir un temps vide qui s'écoule sans événement. C'est le sentiment de l'ennui. Je m'ennuie en allemand se dit « Ich langweile mich ». Traduction littérale, j'éprouve le mal de la longue durée. Autrement dit, je souffre d'un temps pur, qui s'étale de manière amorphe. À l'inverse, le temps semble très court pour les enfants qui jouent, pour les amoureux qui vivent leur amour, pour tous ceux qui, de manière générale, sont animés par une passion. Le temps passe ici trop vite. On voudrait le retenir. Et dans le registre du temps existentiel, on peut encore noter que notre manière de vivre le temps change avec les âges de la vie. Il est certain que la vie ne s'écoule pas de la même manière à tous les âges. On le sait tous. L'enfant a le sentiment de vivre selon un éternel présent, du moins dans un temps qui s'écoule très lentement. Au contraire, Le temps semble se raccourcir, plus la jeunesse s'éloigne et plus la vieillesse s'accroît. Comme le remarque Simone de Beauvoir dans l'ouvrage qu'elle a écrit sur la vieillesse en 1971, le temps semble se contracter dès lors que l'avenir qui nous est ouvert se réduit sans cesse. Lorsqu'elle écrit cet ouvrage, Simone de Beauvoir n'a pas encore 65 ans. Mais à l'époque, 65 ans, c'est la vieillesse. Hein. C'est terminé. Bon. Et alors elle cite, aujourd'hui c'est l'adolescence, hein. Je peux dire. Et elle cite volontiers donc les mots d'Ionesco. Je suis à l'âge où une heure ne vaut que quelques minutes, où l'on ne peut même plus enregistrer les quarts d'heure. Et plus loin, elle note, à 65 ans, on n'a pas seulement 20 ans de plus qu'à 45, on a échangé un avenir indéfini, qu'on tendait à regarder comme infini, contre un avenir fini. Jadis, nous ne découvrions à l'horizon aucune borne, nous en voyons une. On avait le temps devant soi, maintenant, plus tellement de temps devant soi. Donc tout se passe comme si le temps avançait avec une vitesse croissante à mesure que nous avançons en âge. Alors, on se demandera tout à l'heure si c'est bien le temps qui s'accélère. À ce temps existentiel, à cette manière de vivre le temps qui varie selon les affects et en fonction des âges de la vie, on peut opposer ce que l'on peut appeler ici un temps opératoire. Le temps opératoire, c'est celui du travail, c'est celui de l'action. Le temps ici, ce n'est plus l'écoulement des moments que je subis, c'est une ressource. C'est une ressource que je tiens à ma disposition et que j'organise. Lorsque je subis le temps affectivement, il est toujours trop peu ou trop court ou trop long. Trop long pour celui qui est condamné à attendre une décision qui décidera de son sort, trop court pour les enfants qui jouent, pour les amoureux qui ne voient pas le temps passer, lorsqu'au contraire, je suis parfaitement actif. Mon action doit s'adapter exactement au temps dont je dispose. Par exemple, j'ai une demi-heure, une heure et demie pour faire ce que j'ai à faire. Ah ben, je ne peux réussir ici que si je tiens vraiment compte du temps que j'ai à ma disposition de manière précise, de manière objective, et que je l'utilise à bon escient. La cuisson des pâtes, 6 minutes. Ben, pas moins, pas plus, hein, parce que si vous les laissez trop longtemps dans l'eau bouillante, elles deviennent totalement ramollies. Enfin, je vous donne ces conseils, tout de même, vous allez les prendre en considération, je suis un expert. Donc, vous voyez que le temps opératoire, ici, a son importance, hein, si on veut être efficace. Et, bien sûr, il est différent, il est tellement différent du temps existentiel qu'on peut dire que ces deux types de temps s'excluent dans ma vie. Si je veux accomplir tel objectif, je ne peux pas me laisser distraire par des états d'âme, je ne peux pas, ici, gaspiller mon temps. Celui-ci est rigoureusement quantifié, mesuré, et sa mesure fixe les conditions et les limites de l'efficacité de mon action. Alors certes, je peux chercher, quand j'accomplis un travail, un meilleur rendement, en produisant en une heure deux fois plus que ce que je produisais auparavant, en gagnant en habileté, en vitesse d'exécution. Mais les heures ne sont tout de même pas extensibles. Elles n'ont en elles-mêmes aucune élasticité. Et comme on dit parfois, les journées n'ont jamais que 24 heures. Alors, je peux avoir l'impression de les accroître, mais alors, elles ne me paraissent plus longues que parce que j'ai gagné en efficacité ou parce que j'ai diminué le nombre de choses que j'ai à faire. Donc, je ne peux pas agir sur la quantité du temps elle-même. Je dois seulement agir avec elle. Donc ce temps opératoire a une consistance très ferme. Pour être efficace, je dois m'appuyer sur lui, mais il résiste à mes caprices. je n'en fais pas ce que je veux. À l'opposé donc du temps existentiel, dont on a vu qu'il était subjectif et assez fluctuant, c'est un temps objectif qui procède, comme je l'ai dit, d'une stricte quantification. Et cette quantification présuppose l'opération de la mesure, qui consiste à ramener sous une même unité de mesure des temps différents qui relèvent souvent d'activités très très différentes, très hétérogènes. Alors, ici, sous cet angle, le temps apparaît surtout comme une quantité. Et on peut même dire qu'il est la quantité fondamentale, en ce qu'il détermine la valeur des choses. Si j'en juge par le propos célèbre de Benjamin Franklin, vous savez, ce grand industriel américain qui a inventé le paratonnerre, hein, qui était aussi un grand homme d'affaires, un grand homme politique de la jeune nation américaine au XVIIIe siècle, que disait Benjamin Franklin ? « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Alors pourquoi le temps, c'est de l'argent ? Eh bien, parce qu'il lui est identique dans le domaine des échanges économiques. L'argent, c'est, comme vous le savez, l'équivalent universel de toutes les marchandises qui sont présentes sur le marché. Il permet d'acheter des biens aussi différents que des livres, des outils, des chaises, des automobiles. Une automobile vaut tant d'argent et qui équivaut à, je ne sais pas moi, 500, 1000 livres. Et ce qui permet de mesurer, de comparer donc des biens aussi différents et d'affirmer qu'une automobile est égale à tant de livres, eh bien, c'est une même quantité moyenne de temps de travail nécessaire pour les produire. Et même quantité de travail nécessaire pour produire chacun de ces biens. Et donc, le temps est identique à l'argent en ce que la valeur d'échange des biens, aussi différent soit-il, se calcule en temps de travail nécessaire à leur production. Et c'est ainsi que le travail lui-même est vendu en échange d'un salaire qui est comptabilisé en nombre d'heures de travail. Ce faisant, on ramène chaque travail particulier à l'abstraction d'une quantité de travail mesurable en temps et convertible en argent. Vous voyez ? Donc on retrouve ici, d'ailleurs, vous allez voir, on retrouve ici l'opposition entre le temps opératoire, le temps quantifiable des échanges économiques, et puis le temps existentiel, lequel est toujours singulier et propre à chaque individu. La quantification du travail, en effet, laisse échapper la dimension unique de tout travail. Et quand je parle ici de la dimension unique de tout travail, je ne parle pas du fait que le travail est toujours lié à un métier particulier, à une qualification particulière. Non, je parle ici de la dimension existentielle du temps vécu par le travailleur dans son travail, quel que soit ce travail. C'est-à-dire, je prends simplement un exemple, une heure de travail. Une heure de travail, de ce point de vue, ce n'est pas une heure qui vaut tant en termes de salaire, c'est une heure vécue, qui n'est jamais identique à toutes les autres, qui ont été effectuées pourtant dans les mêmes conditions objectives. Il y a ainsi les premières heures de travail, qui sont parfois vécues comme infiniment longues, quand on commence le boulot, au petit matin, en raison d'une nuit d'insomnie, par exemple. Ou au contraire, les heures sont vécues comme très courtes, quand on se sent bien, quand on se sent heureux. Toutes ces heures valent exactement le même prix. Hein, elles ont exactement économiquement le même prix, mais les temps égaux qu'elles expriment quantitativement diffèrent totalement parce qu'ils sont uniques pour celui qui les vit au lieu de les mesurer. Le même temps, la même heure peut ainsi être appréhendé sous deux aspects opposés, soit comme un temps objectif et anonyme, que l'on mesure, qui permet de rapporter telle quantité d'argent, soit comme le temps vécu que la conscience du travailleur appréhende comme le sien et qui renvoie à son histoire individuelle. Alors, on sait que les conditions de la vie moderne, dans des sociétés qui sont marquées par un haut niveau de développement technologique et économique, les conditions de la vie moderne font que le temps opératoire prend le dessus sur le temps existentiel. Nos vies sont en effet organisées, planifiées. Le temps se réduit surtout à un emploi du temps, à un agenda, où tout est compté, où tout est prévu. Il y a les heures de travail, les heures de repos, les heures de transport, les heures de loisirs, les jours de congé. Vous voyez, tout est comptabilisé. Hein. Et puis même la vie elle-même est organisée selon un certain plan. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit ici la manière dont le temps est vécu, nous l'appréhendons spontanément comme ce qui enveloppe notre existence. Qu'il s'agisse de l'organisation quotidienne de notre temps, de la planification de notre travail, de l'expérience que nous avons des âges de la vie, de la conscience de notre finitude, de celle de l'irrévocabilité du passé, ou encore de l'imprévisibilité de l'avenir. Quelles que soient ces expériences, le temps s'impose à nous. Toutes ces expériences impliquent le temps, d'une manière ou d'une autre, et toutes supposent la conscience que nous avons de lui. Nous disons ainsi que nous sommes dans le temps. Et cela signifie qu'avant les jours de notre vie, il y avait des jours, déjà, et qu'après, et après notre vie, il y en aura encore. Et qu'ainsi, de fait, notre propre temps nous est compté. Que nous soyons actifs ou en repos, éveillés ou endormis, le temps s'écoule pour nous jusqu'au dernier laps de temps, limité par le dernier instant, il faut bien en parler, en deçà duquel nous ne serons plus que comme ayant été, et au-delà duquel le monde et le temps continueront sans nous et sans fin. Ainsi, par la force des choses, chaque individu, à partir du moment où il commence à réfléchir sur sa vie, sur son expérience personnelle, chaque individu naît à ce que Schopenhauer appelle l'étonnement. Condamné à s'étonner, à se poser des questions sur son existence. Et il ne peut que s'interroger sur la nature énigmatique de ce temps qui passe inexorablement aussi bien en nous qu'en dehors de nous, sans que nous puissions en arrêter le cours. Alors, quel est ce temps? Quel est donc ce temps qui passe inexorablement, dont nous allons jusqu'à penser qu'il s'accélère plus nous vieillissons? Alors ici, je crois qu'il faut se garder d'une confusion. On parle d'accélération du temps, là où, en fait, il y a changement de perception du temps. Changement de perception du temps qui s'effectue avec l'âge, par un nouveau rapport à l'avenir, par la perspective de la mort. Les heures, les jours, les mois semblent défiler de plus en plus vite. C'est vrai, mais en réalité, ce sont toujours des heures qui s'écoulent. Heure par heure. Ça ne change pas. Donc c'est la même confusion d'ailleurs qui est faite parfois quand on entend parler d'une accélération du temps pour exprimer l'idée qu'il y a de plus en plus d'actions et d'événements dans le même laps de temps, comme c'est le cas dans nos sociétés modernes où l'information circule instantanément grâce aux moyens numériques et où on a affaire à des transactions financières par exemple qui s'effectuent à l'échelle mondiale. On a l'impression d'une accélération du temps, étant donné tous ces dispositifs. Bon. Et des sociologues parlent d'accélération du temps. Là encore, je crois que c'est une confusion. Cette fois, on ne confond pas le cours du temps avec la perception qu'on en a, perception qui peut laisser croire à une accélération, mais on confond le cours du temps avec le cours des événements qui s'accumulent de plus en plus et de plus en plus rapidement. Ce sont les événements qui s'accélèrent, ce n'est pas le temps. On peut tout au mieux parler d'une accélération des événements, d'une accélération de l'histoire. Mais d'ailleurs, si on peut en parler, c'est à la condition que le temps, quant à lui, s'écoule toujours de la même manière. Sinon, on ne pourrait pas mesurer une accélération. Donc, cette confusion est enlevée. Quelle est vraiment la nature du temps ? Alors, il est tentant de regarder ce qu'en disent les dictionnaires, pour le savoir. Mais comme nous allons voir très rapidement, les dictionnaires se bornent à définir le mot « temps » en examinant les usages qui en sont faits. Ils ne cherchent pas à en éclairer la nature. Alors, je fais ma petite enquête, regarde les dictionnaires. Qu'est-ce que disent les dictionnaires ? Tantôt, ils définissent le temps comme une grandeur. Donc le temps se range dans le genre des grandeurs. Tantôt, ils le définissent comme un milieu. Donc il se range dans le genre des milieux. Alors, d'abord la grandeur. Le temps est présenté comme une grandeur. Il est présenté comme une grandeur au sens où la durée peut se dire en secondes, en minutes, en heures, en journées, etc., etc. Mais alors, quand on pose la question, mais de quelle grandeur s'agit-il ? Parce que l'espace aussi est une grandeur. Alors on répond que c'est une grandeur temporelle. Donc forcément, vous êtes dans une définition circulaire, hein, on tourne en rond. On dit encore du temps que c'est un milieu. Il se range dans le genre des milieux. Mais de quelle espèce de milieu s'agit-il ? Alors voyons ce qu'en dit le Robert, hein, grand dictionnaire qui fait référence. Je cite, « Milieu indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans leurs changements, les événements et les phénomènes dans leur succession. » Alors, cette définition du temps suppose qu'on sache déjà ce qu'est le temps. Puisque pour préciser ce que signifie le mot, elle recourt à des mots qui présupposent le temps. Par exemple, le verbe « se dérouler ». Comment voulez-vous le comprendre si vous n'avez pas une notion du temps ? L'adverbe « irréversiblement », même chose. Le nom « succession », même chose. Vous voyez, ce sont des mots qui ne se comprennent que si on sait déjà ce qu'est le temps. Là encore, on tourne en rond. Alors, le seul intérêt de ces définitions lexicales, c'est qu'en définissant le mot « temps » à partir de l'usage qu'on en fait, elle nous montre la représentation spontanée que nous en avons. Et il est remarquable ici de noter que les deux conceptions du temps que j'ai évoquées, la grandeur, le milieu, eh bien ce sont deux conceptions qui entrent en contradiction. Puisque d'un côté, une grandeur, bah, c'est quelque chose de variable, et puis de l'autre, un milieu, bah, c'est quelque chose de constant. Donc, on se représente contradictoirement le temps comme quelque chose de variable et de constant. Vous voyez ? Moi, cette petite enquête est révélatrice de la difficulté dans laquelle nous sommes à penser le temps. En tout état de cause, ce n'est pas en examinant le sens du mot et la variété de ses usages qu'on peut répondre vraiment à la question « qu'est-ce que le temps ?» Alors, le problème est ici de savoir si on peut connaître la nature du temps par un concept qui permette d'énoncer ses propriétés. Et c'est ici que les difficultés commencent. Avant de savoir si on peut définir le temps, voyons d'abord ce qu'on doit attendre d'une définition, une véritable définition. C'est-à-dire une définition qui chercherait vraiment à montrer la nature de ce qu'elle prétend définir. Alors, une définition, et je vais donner quelques exemples, hein, avant d'aborder le temps. Une définition n'a de valeur que si elle est explicative, que si elle parvient à énoncer les propriétés qui constituent la nature de ce qu'elle définit. Alors, prenons deux exemples. Quand on définit l'être humain, définir l'être humain, c'est chercher à en montrer la nature. C'est énoncer les propriétés qui expliquent qu'un homme est un homme, et qui sont propriétés qui sont vraies de tous les hommes, pas seulement de quelques-uns. Alors, c'est ce que fait le philosophe Aristote quand il cherche à définir l'homme. Il part du genre auquel appartient l'espèce humaine, le genre animal. Donc l'homme est un animal. Bon, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Ensuite, il s'efforce de dégager la propriété qui distingue l'homme des autres animaux, c'est-à-dire qu'il cherche à établir ce qu'il appelle la différence spécifique de l'homme. Alors, il croit pouvoir dire, ici, que la raison est la propriété spécifique de l'homme qui explique sa différence d'avec les autres animaux. Voilà comment il s'efforce, vous voyez, de définir l'homme. Alors, on peut être critique, ne pas être d'accord avec la réponse donnée, mais voilà, au moins, un effort, vous voyez, de définition rationnelle. Prenons un autre exemple. Que fait le chimiste pour définir l'eau ? On ne se contente pas de la regarder, hein, et de la goûter. Bon. Il montre que l'eau est ce qu'elle est par sa constitution chimique. Elle est la combinaison, elle est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène, H2O. Bon. Donc vous voyez, là aussi, c'est la même chose. Hein. Définir, c'est donc parvenir à dégager les éléments constituants d'une chose qui permet d'expliquer pourquoi cette chose est cette chose. Bon. Si on suit ces exigences, eh bien, répondre à la question « qu'est-ce que le temps ?», c'est-à-dire définir le temps, eh bien, ce sera déterminer les propriétés constitutives du temps qui expliquent ce qu'il est. Seulement, une telle définition est-elle possible ? Et là, vous allez voir que ce n'est pas simple. Si vous suivez ce qu'en dit le philosophe Pascal, Blaise Pascal, vous connaissez tous, dans « De l'esprit géométrique », un texte qu'il écrit en 1657, eh bien, que dit Pascal ? Dit que le temps ne peut pas être défini. Ce n'est pas définissable. Pourquoi ? Parce que c'est, comme il le dit, une notion primitive. Je vais expliquer. C'est-à-dire qu'il estime qu'on ne peut pas fournir une définition qui montrerait la nature du temps, qui expliquerait la nature du temps, et qui devrait, pour y arriver, s'appuyer sur d'autres notions. Comme on l'a vu, par exemple, quand Aristote cherche à définir l'homme. Non, le temps est une notion primitive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est... C'est une notion immédiatement connue. Immédiatement connue par tous les hommes, intuitivement. C'est une notion suffisamment claire pour qu'on ait besoin de la définir. Et je cite ici Pascal, dont je vous ai d'ailleurs photocopié l'extrait en question, alors on ne va pas tout lire, juste regardez bien ligne 4, voilà. Et à partir de la question, qui le pourra définir ? C'est-à-dire, qui pourra définir le temps ? Vous avez repéré ? Et pourquoi l'entreprendre ? Puisque tous les hommes conçoivent ce qu'on veut dire en parlant de temps, sans qu'on le désigne davantage. Et bon, je laisse la suite, hein, et vous allez voir que pour la suite, ce que va montrer ensuite ici Pascal, c'est que l'essentiel, avec le mot temps, eh bien, c'est que le mot permet, au fond, aux hommes de se tourner vers le temps, de se tourner vers la chose. C'est ça qui compte. Je lis, par exemple, vous voyez, plus loin, plus bas, hein, en sorte qu'à cette expression, vous avez repéré, en sorte qu'à cette expression « temps », on pourrait dire à ce mot « temps », tous portent la pensée vers le même objet. Ce qui suffit pour faire que ce terme n'ait pas besoin d'être défini. Quoiqu'ensuite, en examinant ce qu'est le temps, on vienne à différer de sentiments après s'y être mis à penser. Car les définitions ne sont faites que pour désigner les choses que l'on nomme et non pas pour en montrer la nature. Bon, alors expliquons. C'est-à-dire que pour Pascal, une définition ne peut être que nominale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au fond, elle sert seulement à désigner la chose que l'on nomme. Rien de plus. Ça ne peut pas faire mieux. Ça ne peut pas faire plus. Donc, ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est qu'on sache de quoi vous parlez quand vous dites de temps. Voilà, c'est tout. Et vous ne pouvez pas prétendre fournir une définition qui explique la nature du temps, ou alors à ce moment-là, vous entrez dans des débats où les uns et les autres vont être en désaccord. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir, au fond, cette connaissance intuitive du temps, savoir de quoi on parle, ce que c'est. Et parce que la notion de temps est une notion primitive, qu'elle s'impose à l'esprit de manière évidente, eh bien, le temps s'avère indéfinissable. Il est inutile de vouloir entreprendre une définition qui prétendrait expliquer la nature du temps. Chacun sait immédiatement ce que c'est. Donc, vous voyez que pour Pascal, le temps, c'est une notion qui relève d'une connaissance immédiate, d'une intuition intellectuelle. Le mot intuition désignant, vous voyez, une appréhension immédiate, une connaissance immédiate. Et pour Pascal, il en est du temps comme du mouvement, comme d'autres notions, comme le mouvement, comme l'espace, comme le nombre. Ce sont des notions dont on se sert en science, en géométrie notamment, mais qui ne peuvent pas être définies, étant donné leur évidence. C'est-à-dire qu'on opère à partir de ces notions sans jamais les définir, mais ce n'est pas très important. Hein. On ne peut pas aller au-delà de leur définition dominale. On ne peut pas les expliquer. Elles sont ainsi, et il faut partir d'elles pour raisonner. Alors, il reste qu'on peut se demander si le temps n'est pas plutôt une intuition sensible. C'est-à-dire qu'au fond, pour Pascal, c'est une intuition intellectuelle. Bon. Mais pourquoi ce ne serait pas une sensation, le temps, après tout ? Pourquoi ce ne serait pas une intuition sensible, quelque chose qu'on appréhende directement, au fond, par nos sens ? Est-ce qu'on ne sent pas le temps comme on sent, par exemple, le rouge d'une cerise, ou le goût sucré d'une poire, ou le vert d'une feuille d'arbre, ou encore la douleur que j'éprouve quand j'ai un abcès à la gencive ? Est-ce que ce n'est pas de cet ordre-là, le temps ? Vous voyez ? Alors, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une intuition du temps, une intuition sensible du temps, une sensation du temps est impossible. On doit écarter cette réponse. Nous ne sentons pas le temps lui-même. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir une sensation du temps comme nous avons une sensation du rouge. Hein ? Voyons clair. C'est-à-dire que nous n'appréhendons pas le temps de manière immédiate et directe. Nous appréhendons le temps toujours de manière indirecte. Par ses effets. Nous appréhendons le temps à travers l'expérience d'un certain nombre de changements que nous percevons. Par exemple, on va prendre des exemples. Lorsque je regarde ma montre, je ne vois pas directement le temps passer. Ce n'est pas en voyant ma montre que je vois le temps passer. C'est pas vrai. Je vois seulement l'effet de son passage. Je vois l'effet de son passage par le déplacement des aiguilles. Ça oui. Et j'interprète ce déplacement comme, évidemment, le résultat du temps. Mais je ne vois pas le temps. Je ne le sens pas. J'en mesure les effets. Les aiguilles de ma montre indiquaient tout à l'heure 5h30. Quand je suis allé acheter du pain, chez la boulangère, elles indiquent maintenant 7 heures. Ah, voilà, j'ai vu, hein, ça s'est déplacé. Bon. Donc je ne sens pas le temps, je ne l'appréhende pas immédiatement. Je n'en vois pas, je n'en sens pas le dynamisme secret. Vous voyez ? J'observe seulement ces effets en notant des changements et des déplacements. D'ailleurs, chacun peut faire cette remarque, je peux remarquer que tant que ma vie s'écoule sans heurts, sans rupture, de manière continue, je ne sens pas le temps passer. Je ne sens pas le temps passer. Je sens en revanche que le temps est passé quand il m'arrive un changement notable qui modifie le cours de ma vie ou le cours de ma journée, sans aller trop loin. Pour reprendre les analyses de Simone de Beauvoir, dans son fameux livre sur la vieillesse que je recommande, un très beau livre, sur lequel j'ai fait une petite émission, hein, dans les rendez-vous de Philopop. Si j'étais seul et n'étais jamais confronté au regard des autres ou à l'image que me renvoie un miroir, je n'aurais aucune raison de croire que j'ai vieilli. Moi, je n'ai pas vieilli. Je ne comprends pas pourquoi il me voit autrement. Il s'adresse à moi autrement. Avant, on s'adressait à moi en me disant « Jeune homme, pourquoi il me parle autrement maintenant ?» Ça me fait bizarre. Donc, vous voyez, ce n'est pas ici le témoignage des autres. Je n'ai aucune raison de me sentir vieux. Et elle le montre de manière remarquable, évidemment, beaucoup plus intelligente que ce que je viens de vous dire. Hein, mais dans son fameux livre « La vieillesse ». Lorsque le temps se fait sentir, puisque on utilise cette expression, eh bien, il se fait sentir à travers un changement remarquable. Il se fait sentir par le contraste qui existe entre deux états successifs, mais un contraste qui révèle la disparition du premier au bénéfice du second. Je ne suis plus comme j'étais. Donc, voyez bien qu'il n'y a pas d'intuition sensible du temps. Si nous entendons par là une appréhension immédiate de son existence par nos sens, hein, par notre sensibilité. Alors, est-ce qu'il faut conclure que la notion de temps est, comme le dit Pascal, une notion intellectuelle, une évidence intellectuelle, et qu'elle n'a rien à voir avec notre sensibilité ? Pas sûr. Et c'est là que l'analyse d'un autre philosophe, réputé difficile, mais vous allez voir, c'est pas compliqué, un autre philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, dont le premier grand ouvrage, La critique de la raison pure, paraît en 1781, eh bien l'analyse de ce philosophe est ici très intéressante. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Il va nous montrer que le temps n'est ni conçu, donc c'est pas une notion intellectuelle, ni perçu, comme on vient de le montrer. Il n'y a pas de sensation du temps. Donc, ni conçu, ni perçu. Ce n'est ni un concept, ni, comme il le dit, une intuition empirique. Qu'est-ce qu'il entend par une intuition empirique ? C'est une sensation. Donc, ni un concept, ni une sensation. Qu'est-ce qu'il va montrer ? Mais j'annonce sa conclusion, vous allez voir comment il va y arriver. Il va montrer que c'est une condition de la perception. Et à ce titre, le temps, c'est une structure de notre sensibilité. Mais pour l'instant, ce n'est pas clair. Donc, s'il ne s'agit pas d'une sensation, si nous ne percevons pas le temps, comment accédons-nous à sa représentation ? Par quel moyen nous forgeons-nous cette représentation ? Eh bien, comme va le montrer Kant, par une opération d'abstraction. J'explique. Je conçois le temps par soustraction. Quand j'ai ôté de mon expérience tout ce qu'elle a de sensible, c'est-à-dire toutes les sensations, toutes les perceptions que j'ai du monde, aussi tous les sentiments et même toutes les pensées, qui se déroule intérieurement en moi. Donc, vous voyez, je conçois le temps toujours par soustraction, en ôtant tout ce qui défile en moi, en quelque sorte, dans le temps. Vous voyez ? Le temps, donc, c'est ce qui reste de l'expérience, c'est ce qui reste de l'expérience du monde, quand on en a ôté mentalement tout le contenu. Tout le contenu, c'est-à-dire quand on a ôté mentalement tout ce qu'on perçoit du monde et ce qu'on pourrait en percevoir. Vous voyez ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste après cette soustraction mentale ? Ben, il reste ce que Kant appelle deux formes. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Vous allez comprendre. Il reste deux formes. Quand vous enlevez tout le contenu, il reste deux formes. Il y a d'abord l'espace. La première forme, c'est l'espace, dans lequel se trouvent toutes les choses que je perçois. Elles sont situées les unes par rapport aux autres dans l'espace. Et puis, il y a le temps. Deuxième forme, le temps, qui est la forme dans laquelle se trouvent toutes les expériences que j'ai vécues, que je vis, ou que je pourrais vivre à l'avenir. C'est-à-dire que si on note mentalement du temps tout son contenu temporel, c'est-à-dire toutes les expériences qu'on a, hein, eh bien il ne reste au fond que le temps comme forme vide. Voyez ? C'est par cette espèce d'opération de soustraction que j'arrive à me représenter le temps comme cette forme vive, comme cette forme vide, pardon, qui demeure quand on a enlevé tout ce qu'il y a comme contenu sensible. On peut ainsi se représenter un temps vide, c'est-à-dire un temps où il ne se passe rien. Mais à l'inverse, jamais on ne peut imaginer une expérience hors du temps. Vous voyez ? Toute expérience s'effectue dans le temps. Hein ? Donc, il n'y a pas d'expérience en dehors du temps. Par contre, le temps, je peux l'imaginer indépendamment des expériences qui s'y déroulent. Vous comprenez ? Donc, la représentation, qu'est-ce que veut montrer Kant ? C'est que la représentation, et qu'est-ce qu'il veut montrer ? Il veut montrer que la représentation du temps est présupposée par toutes les expériences que nous avons. Elle est, si vous voulez, cette représentation du temps, elle est ce qui fait que nos expériences sont toutes situées dans le temps. Soit elles sont simultanées, soit elles sont successives, vous voyez ? D'où vient la simultanéité ? D'où vient la succession ? Eh bien, de cette forme du temps. Ce ne sont pas des relations qui viennent de l'expérience, qui viennent de sensations. Ce sont des relations, si vous voulez, qui viennent de la structure de notre sensibilité, qui viennent de la manière dont nous lions subjectivement ici nos expériences. Vous voyez ? Alors, on va lire le texte de Kant et quitte à revenir un peu sur certains points. Le texte, c'est le texte numéro 2. Du temps. Le temps, premièrement, n'est pas un concept empirique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concept empirique ? C'est un concept dérivé de l'expérience. Par exemple, le chat, le chien, c'est un concept dérivé de l'expérience. Il faut avoir vu des chiens et des chats pour se forger le concept de chat ou de chien, vous voyez ? Bon. Donc, ce n'est pas un concept empirique ou qui était retiré d'une quelconque expérience. Car la simultanéité ou la succession ne parviendrait pas elle-même à la perception si la représentation du temps n'intervenait a priori comme fondement. C'est-à-dire que la représentation du temps, elle ne vient pas d'expérience. Elle est déjà là avant toute expérience. C'est une structure de notre subjectivité. Vous voyez ? C'est une structure de notre subjectivité qui, en quelque sorte, entre en activité dès lors que nous avons une expérience des choses. Et c'est cette structure qui va coordonner nos expériences selon la simultanéité ou selon la succession. C'est-à-dire que quand nous avons des expériences dans le temps, elles se succèdent les unes aux autres. Elles s'enchaînent les unes aux autres selon la succession. Et d'où vient cette succession, d'où vient cette simultanéité de la structure, de cette structure de la sensibilité, de cette structure du sujet humain qui est le temps. Le temps, c'est une structure du sujet humain. Vous voyez ? Alors, continuons. C'est seulement sous supposition de cette représentation que l'on peut se représenter que quelque chose existe dans un seul et même temps, simultanément, ou dans des temps différents, successivement. La succession, ça nous est pas, la succession ou la simultanéité, ça ne vient pas de l'expérience. C'est une structure que notre sujet, que le sujet humain, impose justement à l'expérience. Hein ? Nous vivons les expériences comme se succédant. Bon. Le temps, deuxièmement, le temps est une représentation nécessaire qui joue le rôle de fondement pour toutes les intuitions. On ne peut, à l'égard des phénomènes en général, c'est-à-dire des choses telles qu'elles nous apparaissent, supprimer le temps lui-même, bien soustraire du temps les phénomènes. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut imaginer le temps sans expérience, hein, un temps vide, mais on ne peut pas imaginer des expériences sans le temps. Toute expérience se déroule dans le temps. C'est-à-dire que la structure même du temps fait que les expériences sont toujours situées dans le temps, les unes par rapport aux autres. Vous voyez ? C'est en lui seulement que toute l'effectivité des phénomènes est possible. Ces derniers peuvent être soustraits tous ensemble, mais il ne peut lui-même, comme condition générale de leur possibilité, être supprimé. Bon, c'est exprimé de façon compliquée, mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que le temps est une forme de la sensibilité qui n'est pas le résultat de l'expérience, mais qui va au contraire structurer l'expérience. Vous voyez ? Donc, si je récapitule, le temps ne peut donc être ni conçu, ni perçu. Ce n'est pas une chose qui est appréhendée par l'expérience. On ne fait pas l'expérience du temps. On fait seulement l'expérience des événements qui se succèdent dans le temps. Hein ? Et s'ils apparaissent comme successifs, c'est bien parce que le temps est ce qui vient structurer l'expérience. Vous voyez ? Donc, alors, qu'est-ce que dit Kant ? Dit, si ce n'est pas une chose, si ce n'est pas un concept, c'est quoi le temps ? Alors, voilà le terme qu'il emploie, il parle d'intuition pure de la sensibilité, ou de forme a priori de la sensibilité. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que cette intuition pure ? C'est-à-dire, pure au sens où elle n'est pas dérivée de l'expérience, hein, où elle est déjà là, en quelque sorte, dans notre esprit. Hein. Eh bien, cette intuition pure, cette forme a priori de la sensibilité, caractérise la manière dont nous lions nos expériences, nos pensées, qui s'enchaînent donc successivement. Vous voyez ? C'est notre esprit qui impose la succession, en quelque sorte, aux événements. Si j'espère que vous comprenez mieux, là, comme ça, de cette manière-là. Donc, vous voyez, si je suis Kant, le temps, c'est une structure du sujet humain. C'est une structure du sujet humain qui s'exerce dès que l'homme entre en rapport avec le monde, dès qu'il a une expérience. Et c'est pourquoi Kant dit que le temps est au fondement de l'expérience. C'est une condition de possibilité de l'expérience. Il n'y aurait pas d'expérience si nous n'avions pas la représentation du temps. Mais cette représentation du temps, elle est déjà là, en quelque sorte, avant toute expérience. Alors, la conclusion est lourde de conséquences. Si je suis Kant, on arrive à des conséquences qui sont radicales. Parce que si on dit comme Kant que le temps est une intuition pure de la sensibilité qui est inhérente à l'esprit, ben ça veut dire que le temps n'est rien d'objectif. Il relève de la subjectivité humaine, c'est tout. C'est-à-dire qu'au fond, si je suis Kant, le temps n'existe que parce que par l'esprit humain. Hein ? Il n'existe que par le sujet humain. Si je suis Kant, c'est ça. Il n'y a rien d'objectif. Hein ? Le temps, c'est une forme de la sensibilité, c'est une structure d'esprit humain qui, voyez, organise l'expérience selon la succession. Alors, évidemment, quand je dis que c'est une structure du sujet humain, c'est une structure universelle du sujet humain. Ce n'est pas une structure qui est ma structure à moi et pas celle, pas la vôtre. Hein. C'est une structure commune à tous les hommes, en quelque sorte. Hein. Commune à tous les hommes en tant qu'ils rencontrent le monde, en quelque sorte. Et ça veut dire donc que le temps n'existe pas indépendamment du sujet humain. Il faut bien mesurer ce que dit Kant. Et ça va poser problème. Et puis, deuxième conséquence, évidemment, c'est que non seulement le temps n'est pas indépendant du sujet humain, il n'existe que par le sujet humain, mais en plus, il est indéfinissable, puisque c'est une intuition. On en a une appréhension immédiate. Donc, là, évidemment, c'est ce que laisse entendre ce terme d'intuition, hein, bien sûr. Alors, je dis que la conclusion de Kant est redoutable. Elle pose problème, parce qu'effectivement, si on dit que le temps dépend du sujet humain, comment expliquera-t-on que l'univers ait pu se déployer temporellement pendant près de 14 milliards d'années à une époque où le sujet humain n'existait pas? Comment faire avec ça, si vous voulez? Vous voyez? Comment, si vous voulez, comprenez, l'analyse de Kant est remarquable, mais elle pose un énorme problème. Elle revient à dire que le temps sans le sujet humain n'existe pas. Est-ce qu'on peut vraiment considérer le temps seulement comme une structure du sujet humain? Là, on touche un problème que nous ne résoudrons pas aujourd'hui, mais que j'évoque. Vous voyez, je présente les problèmes qui vont devoir être abordés. Vous voyez, c'est une des choses, ici, c'est une des questions importantes. Puisque nous lisons cette année Schopenhauer, sachez que Schopenhauer est un disciple de Kant. Hein. Il pense la question de la même manière. Vous voyez? Bon, on aura l'occasion de revenir à ça. Bon, mais en considérant contre Kant que le temps n'est pas une intuition, en admettant qu'il n'est pas une intuition, en considérant qu'il a une réalité objective en dehors du sujet humain, est-ce qu'on peut espérer parvenir à une définition conceptuelle du temps qui en dégage les propriétés constitutives? Vous voyez, je laisse de côté Kant. Je pars du principe que le temps est quelque chose d'objectif, qui constitue la réalité objective des choses. Est-ce que je peux arriver à en donner une définition? Est-ce que je pourrais en produire une définition conceptuelle? Alors ici, justement, ce n'est pas simple. C'est que le problème est de savoir si on peut se passer de toute intuition pour appréhender le temps. Si on arrive à se passer de toute intuition pour appréhender le temps, oui, sans doute, on parviendra peut-être à définir le temps. Mais s'il faut toujours quelque chose comme une intuition pour appréhender le temps, c'est-à-dire une sorte de connaissance immédiate, hein, quelle qu'elle soit, qu'elle soit intellectuelle ou sensible, là, ça devient problématique. Il n'est pas sûr qu'on parvienne à vraiment définir le temps. Or, ici, ce qui fait qu'une définition du temps est difficile, c'est qu'il semble difficile, justement, d'appréhender le temps sans recourir à l'expérience que notre conscience a du présent. C'est-à-dire que quand j'appréhende le temps, spontanément, j'appréhende le temps dans la conscience que j'ai du présent. C'est-à-dire que j'appréhende le temps à partir de l'intuition du présent. Alors, vous allez voir, ici, ça va s'éclaircir. C'est-à-dire que le présent, ce que j'éprouve maintenant, ce que je sens maintenant, la conscience que j'ai maintenant, le présent se présente à nous de manière paradoxale. Nous le vivons, hein, nous vivons le présent comme n'étant jamais le même. Puisque le présent ne cesse de devenir passé. C'est-à-dire que nous ne saisissons jamais le présent comme quelque chose de fixe, puisqu'il est en train sans cesse de disparaître. Et c'est ça l'intuition que nous avons du présent. Et c'est ça qui est déconcertant. Et c'est ça qui fait que ça va être très difficile de parvenir à une définition du temps, qui soit une définition rationnelle. Parce que cette intuition du présent, elle apparaît rebelle à tout effort de la raison pour expliquer la nature du temps. Et un être qui serait parfaitement rationnel, un être qui serait parfaitement rationnel, mais qui serait hors du temps, au fond, ne pourrait jamais se le représenter. Parce que pour avoir une idée du temps, il faut avoir cette intuition du présent. Il faut avoir cette impression du présent qui fait que le présent est justement quelque chose de constamment mobile. Et ça, c'est pas la raison qui peut vous fournir, voyez, cette connaissance. C'est l'intuition du présent seule qui semble pouvoir me fournir cette connaissance. Donc voilà une des raisons pour lesquelles, surtout, il paraît difficile et même impossible d'expliquer la nature du temps de manière rationnelle. Et le mieux qu'on puisse faire, semble-t-il, c'est de s'incliner devant cette intuition, et c'est de la décrire, faute de pouvoir la comprendre. Et c'est ce que montre un grand philosophe, théologien, Saint Augustin, dans un texte très célèbre, qui se trouve au chapitre 14 du livre 11 des Confessions. Alors, je présente un peu le personnage. Saint Augustin, c'est un des pères de l'Église. Mais c'est aussi un grand philosophe. On peut lire ce texte sans être croyant, hein. On n'est pas obligé ici d'avoir effectivement la foi pour comprendre ce que dit Augustin, ce qu'il va dire, ce qui est assez remarquable. Il fait référence, si vous voulez. Donc c'est un philosophe. Il est berbère. Je présente un petit peu. Il vivait dans l'actuelle Tunisie, près de Carthage, et il se convertit au christianisme sur le tard, et il va devenir évêque, et ce sera un des pères de l'Église. Il rédige ses confessions, c'est peut-être son texte le plus célèbre, entre 397 et 400 après Jésus-Christ. Et alors là, je crois qu'il faut lire le texte, hein. Alors, je vais le lire, si vous voulez, et puis après, on va reprendre la lecture patiemment, en expliquant le texte. C'est le troisième texte. Qu'est-ce en effet que le temps ? Alors, je prends le texte à partir de la ligne 4. Alors, il s'adresse à Dieu, hein, il y a un dialogue avec Dieu, enfin là, je laisse cet aspect des choses, je vais directement à la ligne 4. On reverra le texte de saint Augustin. Je crois qu'il faudra lire le livre 11. Bon. Qu'est-ce en effet que le temps ? Qui serait capable de l'expliquer facilement et brièvement ? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement, pour exprimer par des mots l'idée qu'il s'en fait ? Est-il cependant notion plus familière et plus connue dont nous usons en parlant ? Quand nous en parlons, nous comprenons sans doute ce que nous disons. Nous comprenons aussi si nous entendons un autre en parler. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé. Que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore ? Quant au présent, s'il était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, ben, il ne serait pas du temps. Il serait l'éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi, lui qui ne peut être qu'en cessant d'être, si bien que ce qui nous autorise d'affirmer que si le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. Sacré morceau de bravoure, hein ? Alors, donc, reprenons la lecture, si vous voulez. Donc saint Augustin s'étonne du contraste entre l'évidence qu'a pour nous la temporalité des choses et notre propre temporalité. Ça, c'est évident, on a une expérience familière du temps, ça paraît évident. Il y a un contraste entre cette évidence et puis notre incapacité de dire ce qu'est au juste le temps. Nous sommes incapables de dire au juste ce qu'est le temps. Et là, nous tombons dans l'embarras. Nous tombons dans l'embarras dès que nous voulons expliquer ce que nous entendons par là. Je reprends une formule de saint Augustin. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Alors pourquoi cet embarras ? Pourquoi cette incapacité ? Parce que le temps s'avère extrêmement déconcertant pour qui veut le soumettre aux exigences de la raison. La question « qu'est-ce que le temps ?» elle présuppose que l'objet que vous cherchez à définir est l'identité d'un être. Cela suppose que cet être subsiste et demeure identique à lui-même. Je vais prendre un exemple, si vous voulez. Quand, encore une fois, je définis ce qu'est un homme, ou ce qu'est une table, j'énonce les propriétés qui font que c'est un homme, ou que c'est une table. Et ce sont des propriétés qui demeurent constantes. Même si cet homme, même si cette table, change d'aspect. Un homme a beau grandir, vieillir, il demeure un homme. Sinon, on pourrait plus dire, on pourrait plus répondre à la question, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un homme ? C'est-à-dire, on suppose qu'il y a quelque chose de constant, de permanent, dans la chose que l'on définit. Vous êtes d'accord ? Que la chose reste identique à elle-même. Bon. Mais, quand vous abordez le temps ? Le temps, c'est une réalité qui est très loin de remplir cette condition. Parce que le temps, il ne cesse de se modifier. Le temps, il ne conserve pas son identité. Il ne cesse de changer, il ne cesse de varier. Voilà qui est déconcertant. Voilà pourquoi on est en difficulté lorsqu'on cherche à définir le temps. Et ici, le temps, comme le montre saint Augustin, le temps n'est saisissable que comme un présent qui passe et qui devient passé, ou comme un avenir qui advient au présent, pour devenir passé à son tour. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, les parties du temps qu'on appelle le passé ou l'avenir, ces parties n'existent pas. Le passé, qu'est-ce que c'est que le passé ? C'est ce qui n'est plus. Et c'est quoi l'avenir ? C'est ce qui n'est pas encore. Seul le présent existe. Et seul n'existe que ce qui existe au présent. D'accord ? Seul le présent existe, mais regardez ce qu'il y en est du présent. Le présent, il n'existe qu'en cessant d'exister. Qu'en devenant passé. Et si le présent demeurait toujours présent, ce ne serait plus du présent. Ce ne serait plus du temps. Ce serait de l'éternité. Alors on serait tenté de conclure que le temps n'a aucune réalité, qu'il n'est rien, puisque même le seul temps qui existe, c'est-à-dire le présent, n'existe qu'en cessant d'être. On serait tenté de conclure, rien, c'est quoi le temps ? Rien. Hein ? Alors comment, en effet, accorder une réalité à ce temps qui ne conserve pas son identité et ne peut répondre aucunement aux exigences d'une définition ? Je lis le texte, je relis le texte, regardez bien les dernières lignes. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi lui qui ne peut être qu'en cessant d'être ? Mais que va répondre ici saint Augustin ? Oui, c'est vrai que le temps n'est pas un être au sens où nous entendons un être. Qui demeure identique à lui-même. mais il n'est pas pour autant dépourvu de réalité. Et ici, il faut admettre que la réalité du temps est paradoxale. La réalité du temps est paradoxale parce qu'elle consiste dans le passage de l'être au non-être. Regardez la fin de notre texte. Si bien que ce qui nous autorise d'affirmer que si le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que le temps ? En quoi consiste sa réalité ? Eh bien, la réalité du temps se manifeste comme à la fois ce qui fait advenir à l'être ce qui n'est pas encore, et ce qui fait tomber dans le non-être ce qui est. Vous voyez ? C'est ce passage incessant de l'être au non-être, du non-être à l'être. C'est-à-dire que sa réalité se manifeste comme condition de toute apparition et de toute disparition, de toute maturation et de toute décrépitude. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez étrange que le temps. Voyez, c'est cette réalité paradoxale qui vous file dans les... qui glisse, qui glisse comme ça, qui vous file des mains, quoi. Mais que on peut parvenir tout de même à saisir, voyez, comme ce perpétuel passage de l'être au non-être. Voyez, c'est ça le temps. Mais évidemment, si vous définissez ainsi le temps, si le temps ne peut être appréhendé que par l'intuition du présent, d'un présent qui ne cesse de devenir passé, vous voyez bien que toute tentative d'une définition au sens classique du terme est impossible. Vous voyez ? Alors, vous pourrez me dire, oui, mais enfin tout de même, d'accord, on ne peut pas définir le temps, mais alors tu aimes quelque chose qu'on peut dire du temps, et là on est sûr d'avoir raison, c'est que le temps, il est irréversible. D'accord, c'est une propriété incontestable. Bon. Chacun sait qu'on ne peut pas remonter le temps, sauf dans les ouvrages de science-fiction, dans les mythes. Bon, on sait bien. Et en cela, le temps se distingue radicalement de l'espace. L'espace peut être parcouru dans tous les sens. Il dépend de moi d'aller en tel ou tel point de l'espace. Mais il ne dépend pas de moi d'aller en tel ou tel instant du temps. D'accord. Lorsque je suis ici, je peux toujours choisir d'aller ailleurs, vers un lieu qui, une fois atteint, pourra être désigné comme ici. Et d'où ce que je désigne actuellement comme ici pourra être appelé là. Et réversible. Mais je ne peux pas échanger les maintenant. Je peux échanger les ici. Et ici, il est là, je peux les échanger. Mais je ne peux pas échanger les maintenant. Je ne peux pas échanger les maintenant. Je ne peux pas décider d'aller vers ce qui m'apparaît à présent comme passé. Le passé est hors de notre portée. Alors, les exemples ne manquent pas pour illustrer l'irréversibilité du temps. Par exemple, je peux remonter ma montre. Je peux inverser la marche de l'aiguille. Ah oui ? Pour la remettre à l'heure. Pourquoi ? Parce que cette marche, elle est purement spatiale. Vous voyez ? En revanche, je ne peux pas inverser le temps vécu d'une journée et revenir du soir au matin. Et comme l'explique un philosophe dont vous avez sans doute entendu parler, qui était assez spectaculaire dans sa gestualité, Yankelevitch. Celui qui est allé de Paris à Rouen, il peut, s'il a pris un aller-retour, revenir à son point de départ, le retour se repliant sur l'aller pour le neutraliser. Mais dans le temps, le retour succède à l'aller. Il lui fait suite sans annuler le fait d'avoir fait l'aller. Il y a deux événements successifs. Il n'y a pas de réversibilité, c'est irréversible. Ainsi, le temps s'impose à nous. Il nous est impossible d'aller vers ce qui est à présent le passé Et il nous est nécessaire d'aller vers ce qui est à présent l'avenir. Ah, ça, j'y vais. Ben, c'est sûr, je ne peux pas faire autrement. Hein. Je ne peux pas dire stop, arrêtez le temps, là, s'il vous plaît. Non, j'y vais. Alors, je ne sais pas bien ce que sera l'avenir, mais enfin, j'y vais, c'est sûr. Et le seul présent, donc, nous est toujours imposé, sans possibilité de le choisir et d'en changer. Je suis condamné au présent. Alors, on peut décrire ainsi le temps comme une sorte de prison ambulante qui avance constamment, sans qu'on puisse s'en abstraire et sans qu'on comprenne ce qu'il fait avancer. C'est-à-dire que le temps, il marche sur des roulettes, mais on ne sait pas quel est le moteur. Hein, on n'arrive pas. On décrit. Faute de mieux. Vous voyez ? Alors, il semble donc qu'à défaut d'une définition du temps, bah, nous puissions nous accorder sur son caractère irréversible. Vous êtes d'accord ? Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais, comme on va le voir, l'irréversibilité du temps peut faire l'objet de deux représentations opposées. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Et je présenterai simplement le problème. Je n'irai pas plus loin. Vous allez voir que ça ouvre des perspectives. Nous disposons en effet de deux images pour figurer l'irréversibilité du temps. Et ces deux images, ces deux métaphores, conduisent à deux conceptions du temps. Alors, première image, l'image de la flèche. Alors on peut se représenter le temps de l'extérieur, sans se figurer y être soi-même. Alors, c'est pas compliqué, hein. On se représente le temps à ce moment-là au moyen d'un axe, orienté par une flèche, dans une seule direction, qui va de l'avant vers l'après. Les instants successifs sont figurés par les points contigus d'une ligne continue. Et c'est ainsi que l'historien se représente la succession des Bourbons sur le trône de France. Il y a d'abord eu Henri IV, assassiné par Ravaillac en 1610, bravo, c'est bien. Puis Louis XIII, qui est mort en 1643, ça vous le saviez pas, moi non plus. Il y a ensuite Louis XIV qui meurt en 1715. Louis XV, je ne sais pas quel âge, quand il est mort. Enfin bon. Et puis enfin Louis XVI, alors là on sait Louis XVI, hein, il est guillotiné en janvier 1793. Bon. Et tous les ans on fait ça. Bon. Alors, selon l'image de la flèche, ce qui est avant précède et détermine ce qui est après. C'est-à-dire que le temps va irréversiblement du passé vers l'avenir. D'accord ? Pas compliqué. Bon. Mais vous avez une autre image qui figure elle aussi l'irréversibilité. C'est l'image du fleuve. Et là, c'est pas pareil. Il paraît difficile de parler du temps en faisant abstraction du point de vue d'où l'on en parle. On ne pense pas à ce moment-là à la troisième personne. On le pense à la première personne du singulier ou la première personne du pluriel. Le « je » ou le « nous ». Et à ce moment-là, on se représente le temps comme un fleuve dans lequel nous sommes immergés. Vous êtes d'accord ? Alors, comme nous sommes plongés dans le fleuve du temps, eh bien, nous disons que le temps passe, il coule, il s'écoule. Ce qui naguère était du futur, l'année 2023, est aujourd'hui du présent et deviendra bientôt du passé, au premier de l'an. Vous voyez ? Donc l'image du fleuve qui coule de l'amont vers l'aval, eh bien, cette image impose l'idée que le temps vient de l'avenir. Il advient d'abord et qu'il va vers le passé. C'est-à-dire ici, vous voyez, on va de l'avenir au passé. Ah oui ? Oui, parce que on se rapporte au futur, on sait que le futur, c'est ce qui va advenir. Quand un événement va m'arriver, ça vient du futur au présent. Et ensuite, ça va du présent au passé. Ce que déjà saint Augustin montre bien dans son texte. L'expérience que l'on a du présent, l'expérience qu'on a du temps, c'est l'expérience d'un futur qui devient présent et d'un présent qui devient passé. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a du temps par la conscience est à l'envers de la représentation traditionnelle du temps qui fait que on commence par le passé et on va vers l'avenir. Parce que cette représentation du temps comme ordre qui va du passé à l'avenir, c'est une représentation finalement dans laquelle je ne suis pas impliqué. Je ne suis pas impliqué, parce que je raisonne comme l'historien, si vous voulez. Vous voyez ? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas immergé dans le fleuve. Tandis que lorsque je suis dans le fleuve, là, c'est différent. Vous voyez ? Alors, justement, c'est bien comprendre la différence. Hein ? Donc, ces deux images du temps, la flèche et le fleuve, eh bien, conduisent donc, comme je l'ai dit, à deux conceptions opposées. C'est-à-dire qu'en se représentant le temps comme une flèche, on recourt à des datations absolue, sur un calendrier. Bon, la mort de Louis XVI, c'est en janvier 1793. C'est après, le 14 juillet 1789. Hein. C'est ce qu'on dit aux élèves. Il faut une chronologie solide, il faut que vous sachiez, vous connaissiez vos dates, ça y est, vous repérez. Bon, là, on recourt à une datation absolue. Bon. Mais là, vous parlez d'événements que vous n'avez pas vécu. Vous êtes extérieur à ce que vous racontez. Hein. Bon, l'historien fait comme ça, forcément. Bon. Et pas seulement l'historien. Quand, je ne sais pas, le paléontologue réfléchit sur les différentes aires géologiques, c'est la même chose. Hein. Bon. Par contre, en se représentant le temps comme un fleuve, on utilise cette fois des datations relatives. Des datations relatives à la situation temporelle de celui qui en parle. C'est-à-dire qu'un même événement est successivement futur, puis présent, puis passé. Vous voyez ? Relativement à ma situation, relativement à la situation de celui qui en parle. J'ai rendez-vous chez le dentiste vendredi, figurez-vous. Pas drôle, hein ? Il va m'arracher une dent. Bon, l'événement existe pour l'instant au futur. Donc, mais quand viendra vendredi, quand je serai passé par cette pénible opération, eh bien, j'aurai vu le dentiste. Hein ? Le sale moment d'extraction de la dent sera passé. Ce sera passé, ouf, enfin ! Hein ? Ce sera du passé. Vous voyez ? Je pourrais dire ouf. Vous voyez ? Bon, eh bien voilà, c'est une autre façon de se rapporter au temps ici que nous exprimons quand nous parlons du fleuve, vous voyez. Donc ces deux images donnent lieu à deux conceptions opposées du temps. Si vous concevez le temps comme une réalité objective qui constitue le monde et ne doit rien à la conscience humaine, eh bien vous privilégierez l'image de la flèche, hein. C'est-à-dire que vous allez vous représenter le temps comme un ordre de succession, un ordre dans lequel se succèdent les événements. Vous ne parlerez pas de passé, vous ne parlerez pas d'avenir, vous ne parlerez pas de présent, vous parlerez d'antériorité et de postériorité. Vous direz qu'un événement est antérieur à un autre événement. Vous voyez, de manière objective. Par contre, et vous laisserez de côté les notions de passé, de présent, d'avenir. Sauf pour dire que tel événement était tel événement, je sais pas, vécu par Louis XVI en 1789. Enfin, quand Louis XVI en 1792 se rapporte à la prise de la Bastille de 1789, pour lui, évidemment, c'est du passé. Hein ? Voilà. Bon, ça, vous allez le dire parce que vous imaginez ici la conscience. Hein, ce qu'en dit, en quelque sorte, Louis XVI, vous imaginez ce que dit Louis XVI d'un événement qu'il a vécu. Bon, mais si vous représentez de manière rigoureuse, de façon objective, ici la chronologie, voyez, vous ne parlez pas de passé, de présent, d'avenir, hein, vous parlez plutôt d'antériorité et de postériorité. Vous situez les événements les uns à la suite des autres. Bon. À l'inverse, si vous mettez en avant l'expérience que vous avez du temps par la conscience, le vécu que vous avez du temps, eh bien là, vous privilégierez l'image du fleuve. C'est-à-dire que le temps sera appréhendé comme le passage qui va du présent vers le passé. Le temps sera appréhendé comme un devenir. Et d'un côté, alors, vous aurez des philosophes comme Aristote, ceux qui parlent du temps comme ordre, Aristote, Newton, Leibniz, qui sont très différents, hein, qui envisagent le temps de manière très, très différente. Hein. Mais c'est, vous voyez, ces pensées, alors je dis Newton, philosophe, parce qu'effectivement, au XVIIIe siècle, on ne distingue pas encore la philosophie de la physique. Hein. La physique, c'est de la philosophie naturelle. Hein. Donc, et Newton se prétend philosophe. Hein. Donc, pour tous ces penseurs, vous voyez, le temps, c'est un ordre de succession des événements. Il s'écoule, hein, de manière objective, en quelque sorte. Et on ne peut pas se placer du point de vue de la conscience humaine. Alors que pour les penseurs comme Saint-Augustin, et aussi pour les penseurs modernes du XXe siècle, qu'on appelle les phénoménologues, ou même Bergson avant eux, eh bien, effectivement, là, au contraire, le temps est appréhendé hein, à partir de la conscience du présent. Vous voyez ? Et là, effectivement, on a une toute autre représentation du temps. Vous voyez, vous allez avoir une opposition entre... Voilà, j'ai forcément simplifié, hein, j'ai schématisé, forcément. Mais vous aurez, vous voyez, deux conceptions du temps qui vont s'opposer hein, en fonction, effectivement, de l'image hein, préalable qu'on a du temps, soit comme fleuve, soit comme flèche. Voilà, et vous voyez, je suis dans les temps. Je n'ai pas dépassé. J'ai même plus court que d'habitude, 5 minutes de moins que d'habitude. C'est quand même assez remarquable, vous voyez. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour ce soir, parce que, bon, vous voyez, et là, à partir de là, il y a plein de choses à dire, mais c'est une présentation plus qu'autre chose. Hein. Voilà, je suis à vos questions. Oui ?
Je reviens à la conception de Kant que vous avez exposée. Donc, je comprends bien que c'est une structure a priori, le temps et... Il y a ces arguments et on peut aussi comprendre que si on ne peut pas enlever le temps au phénomène, c'est pas possible, mais il imagine qu'on peut enlever les phénomènes au temps. Mais ça, si on essaie d'imaginer, ça n'a pas de sens non plus.
Ah non, alors peut-être qu'on se comprend mal. Alors, d'abord, ce que Kant appelle les phénomènes, ce sont les choses telles qu'elles m'apparaissent dans l'expérience. Mmh. Bon, c'est ce que dira Schopenhauer aussi. Hein. Bon. C'est-à-dire que les phénomènes, quand je les vois, soit comme simultanés, soit comme se succédant. D'où vient la simultanéité ? D'où vient la succession ? Pas de l'expérience elle-même, mais de la structuration de l'expérience. Ça, c'est le temps. C'est ça. C'est le temps qui structure. C'est pour ça que Kant parle du temps comme une condition de possibilité d'expérience. Mais donc, je peux très bien envisager le temps sans les phénomènes, femme.
C'est justement ça.
Oui, c'est difficile. Mais parce que jamais, en fait, je ne rencontrerai du temps entièrement vide. Mais je peux l'imaginer. Au sens où effectivement, du temps pur, en quelque sorte, ce serait du temps dans lequel il n'y aurait aucune expérience. Ça, je peux l'imaginer. Par contre, je ne peux pas imaginer 2 secondes une expérience sans temps. L'expérience est toujours située dans le temps. Voilà, ça, c'est ça la différence. Mais c'est vrai que... alors, c'est peut-être le point peut-être le plus délicat de l'exposé de ce soir, c'est l'analyse de Kant. Hein. Bon. Mais c'était pour montrer, effectivement, une perspective qui envisage le temps comme une intuition. Mais une intuition qu'on ne peut pas... qui n'est pas empirique, hein, qui n'est pas une sensation.
Ok. Et la deuxième question, alors, c'est que là, effectivement, c'est une notion, comment on peut dire, a priori
A priori, oui. A priori, ça veut dire indépendant de l'expérience.
Et que ça pose des problèmes, puisque si c'est entièrement subjectif, alors ça perd l'objectivité du temps.
Le temps n'est pas, oui.
Mais on peut en dire la même chose de l'espace.
Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que l'espace, les choses ne sont. Enfin, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est que l'espace et le temps ? C'est deux manières de coordonner, finalement, les expériences. Mais qui ne viennent pas des choses, qui ne viennent pas de la réalité extérieure, qui viennent de nous. C'est notre façon de structurer l'expérience que l'espace et le temps. Ce qui pose problème, hein. Comme. Enfin, je vous ai dit pourquoi. Mais en même temps. Oui, c'est. Oui, d'autres questions ?
Oui. J'aurais tendance à dire quand on est à la vie, on est au temps. Quand on meurt, on sort du temps. Je dis ça. Et donc, vous avez parlé d'éternité. Enfin, bon, par rapport au temps, on peut. Parler d'éternité après la mort. Mais est-ce que la notion du temps, je le verrais plutôt comme quelque chose comme le cœur du vivant, comme le cœur qui bat, qui fait circuler le sang dans le corps, ça fait circuler la vie, et c'est très lié à la vie, en fait, le temps. Le temps et la vie, c'est pareil, d'une certaine manière. C'est-à-dire sans la vie, il n'y a pas de temps, et c'est d'ailleurs, dès qu'on sort de la vie, le temps n'existe plus.
Ah, il n'existe plus pour vous. Ça continue. Ça continue, vous savez. Je sais bien que quand vous disparaîtrez, le monde disparaîtra. C'est vrai pour moi aussi. Hein. C'est vrai pour moi. Mais il se trouve que malheureusement, le monde continuera. Et sans vous et sans moi.
Mais est-ce que le temps n'est pas... On a conscience du temps,
oui.
Grâce au fait qu'on a la conscience,
oui.
et le raisonnement. On a parlé de la différence entre l'animal et l'être humain, c'est la raison.
Oui.
Mais le temps, on l'appréhende parce qu'on a notre conscience, oui. Qu'on vit, on a conscience d'être vivant. L'animal, est-ce qu'il a conscience d'être vivant ? Je ne sais pas, il ne se représente pas la vie. Il n'a pas forcément conscience des temps. Nous, on a cette conscience-là, et en plus, on a le raisonnement.
Oui.
C'est ce qui fait qu'on a le temps.
Oui,
a,
oui, mais peut, vous disiez qu'on essaie avec le temps. C'est pas si simple que ça, parce que bon, les travaux de psychologie montrent que la notion de temps se construit. C'est-à-dire qu'un bébé n'a pas immédiatement conscience du temps. Il ne situe pas les événements, les uns. Enfin, tout ça, ça se construit bon, assez tôt, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas. Enfin, là, il faudrait effectivement convoquer les travaux de certains psychologues comme Piaget et d'autres, hein, mais je pense qu'un être humain, au départ, vit dans l'immédiat. Il ne rapporte pas les événements les uns par rapport aux autres, ne les compare pas. Hein, il faut, pour que tout cela entre en activité, pour que la notion de temps entre en activité, il faut un certain temps, enfin une certaine expérience. Donc vous voyez, en fait, dans votre propos, vous parlez surtout du temps pour nous, du temps tel que nous le vivons. Mais est-ce que le temps objectif se réduit, peut se réduire au temps que nous vivons, au temps dont nous avons conscience, c'est une autre question. Ce sont des questions redoutables, de toute façon. Oui ?
Je suis un peu perturbé par la notion de simultanéité.
Ah oui.
Entre le présent et le passé. Parce qu'aujourd'hui, je peux observer le passé si je vais chercher à observer des étoiles qui sont...
Hein ?
On voit et on sait voir dans le passé. Ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est le passé. Et donc, quand on change les échelles comme ça, on a l'impression qu'on peut remettre en cause. On a bien une sensation, on est présent à l'instant T dans,
oui.
dans une observation du passé, dans une partie du passé. Donc, voilà, c'est un peu cette notion-là qui je pense, permet de faire le lien peut-être avec des notions comme l'espace, c'est comme le déplacement, vient perturber cette notion d'échelle un peu de flèche ou de fleuve, un peu simple, un peu, enfin, presque un peu linéaire.
Vous avez une petite idée dans la tête, à mon avis. Vous ne seriez pas en train de penser la théorie de la relativité, quelque chose de cet ordre-là, bien sûr. Alors, évidemment, alors, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas compétence pour en parler, hein, mais c'est vrai que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein remet en cause l'idée d'une simultanéité absolue, et l'idée d'un temps absolu. Voilà. Et ça, bon, par exemple, c'est le fameux paradoxe des deux jumeaux qui a été inventé, c'est une sorte de fable inventée par un physicien qui s'appelait Langevin, qui travaillait avec Einstein. Et si je résume, vous avez deux jumeaux qui ont le même âge, 20 ans. Il y en a un qui part avec une fusée à presque la vitesse de la lumière, dans une autre planète qui se trouve je ne sais plus combien d'années-lumière. Bon. Et quand il revient, enfin bon, je dis ça approximativement, quand il revient de son voyage, quand il fait l'aller-retour, qu'il revient, il revoit son frère. Lui, il a l'impression d'avoir vécu finalement assez peu de temps, hein, d'avoir eu cette expérience en assez peu de temps. Et il a vieilli de, je ne sais pas, 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je vous trouve exactement l'exemple, la fable. Et son frère, par contre, a vieilli de 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus dans le même temps. C'est-à-dire que le temps est relatif à l'observateur. Référentiel, si vous voulez. On ne peut plus parler du temps absolu, donc l'idée d'une simultanéité à une certaine échelle n'a plus de sens. Ça n'a de sens que pour nous, que dans le cadre d'une échelle même assez grande, tout de même. Hein, bon. Mais quand il s'agit de l'univers, ça n'a plus de sens. Alors là, c'est compliqué. Hein, là, bon. Mais on peut tout de même essayer de rendre compte de ce que dit Einstein sur la relativité en se servant d'images, très simples, comme ça. C'est pour ça que je vous retrouverai ce fameux texte de Langevin sur le paradoxe des jumeaux. Hein, voilà. Mais en fait, c'est comme s'ils étaient désynchronisés, en quelque sorte.
Hein,
ce sont des...
Dans cet exemple, avec les jumeaux,
oui.
Alors,
celui qui vieillit le plus... celui qui est le plus vieux, c'est celui qui est resté sur Terre. Dans l'histoire racontée par Langevin, ils sont jumeaux. Il faut partir d'un même point de départ, si vous voulez, d'un même âge, hein, si vous voulez que l'histoire soit plausible.
Hein.
Oui. Enfin bon, voilà. En tout cas, bon, dans l'histoire, c'est comme ça que c'est présenté pour mieux accrocher, en quelque sorte. Hein. Voilà, ils ont le même âge, même point de départ, mais à l'arrivée. Rien de pareil. Et ils sont plus du tout sur le. Hein, on n'est plus du tout dans la même temporalité. Par contre, et pour l'un et pour l'autre, le temps est vécu de la même manière. Voilà. Par contre, ça ne change pas. Hein, mais ils sont complètement désynchronisés. Et alors là évidemment, ça veut dire une chose aussi. Ça veut dire que là, on ne peut plus parler comme Newton de temps absolu. Bon. Hein, il faudrait effectivement revenir là-dessus. Pour Newton, le temps est un absolu. C'est même un attribut divin. Un attribut divin. Hein, bon. Et donc, il s'écoule uniformément, quels que soient les événements. Donc ça, effectivement, la théorie de la relativité met ça en cause. Elle met complètement ça en cause et donc... Cette théorie ne parle plus du temps, d'ailleurs, séparément de l'espace. C'est une quatrième dimension de l'espace.
Mystère.
à l'espace-temps, pas en termes d'espace-temps.
Mais c'est pas une quatrième
dimension. Bon, là, je vais pas, je ne m'avance pas trop. Mais c'est vrai que c'est une notion qui est relative, disons. Tout à fait. Donc là, on est dans une autre. J'allais dire une autre galaxie, mais. Ce que je veux dire, de toute façon, cette théorie de la relativité, elle ne nous parle pas, parce que dans le temps du monde que nous partageons, même à une échelle assez importante, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a d'incidence que pour, effectivement, une échelle cosmique, si on peut dire. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, la théorie de la relativité, d'après ce que j'ai compris, est une théorie... Parmi d'autres, hein, il y a aussi la théorie quantique, qui, par contre, elle, envisage toujours le temps comme quelque chose d'absolu. Bon, là, je ne m'aventure pas.
Et la simultanéité aussi.
Avec la simultanéité, oui.
Aussi bien l'intrication quantique que la présence d'une particule...
Parlez plus fort.
Je peux pas parler beaucoup. L'intrication quantique, la simultanéité absolue... Et puis, la présence d'une particule à deux endroits en même temps.
Donc, la notion de simultanéité a un sens. Tout à fait, c'est ça. Alors qu'elle n'a plus de sens avec la théorie de la relativité. Voilà, c'est ça. Le plus simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas des connaissances scientifiques élaborées, au moins on peut dire ça. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse dire. Allez-y. Oui.
Ne devrait-on pas modifier le temps? Si on compare la vie aujourd'hui à la vie d'hier, la durée de la vie qui augmente, c'est une idée. On vit plus longtemps. On va augmenter sur les journées, le mois, la semaine.
Oui.
Tout se déplace.
On n'aurait plus de repères.
On fait des études plus tardivement. Les enfants plus tardivement.
Ça va peut-être redescendre. Hein.
La retraite, c'est plus tard.
Oui, mais là, ça va peut-être redescendre. Bon, aux États-Unis, ça redescend.
La notion de temps qui était précise, oui. Des secondes, des minutes et des heures.
Oui. Non, c'est pas parce qu'on vit plus longtemps que le temps a changé. Hein.
Et puis, autre question, le sportif, celui qui réalise un temps.
Ah oui. Oui.
Hein, c'est un temps existentiel. Ou c'est un temps opératoire.
Opératoire, oui.
Il y a de la passion, il y a du...
Oui, mais enfin, en même temps, quand on agit et qu'on veut une efficacité à son action, c'est vrai qu'il y a de la passion, mais en même temps, on se plie à une discipline. Oui, allez.
Dernière question. L'outil qui permet de travailler plus vite.
Oui.
Le temps opératoire.
Oui.
Est modifié avec la présence de l'outil.
Le temps est toujours le même. Simplement, on fait plus de choses en autant de temps, c'est tout. C'est pas la quantité de temps qui s'allonge, c'est...
Le temps se réduit pour faire un travail, il faut moins
de... Le problème est là, vous voyez, on est constamment guetté par cette confusion. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser que le temps se réduit parce qu'on fait plus... en une heure que ce qu'on faisait avant. Mais ce n'est pas le temps qui a changé, c'est simplement qu'on fait mieux, on fait plus vite, c'est tout. Mais de toute façon, si le temps changeait, on ne pourrait pas mesurer la vitesse. Donc, on n'aurait plus de repères. Donc voilà le problème.
En revanche, on devrait dire là que le temps, c'est de l'argent muni d'un coefficient variable.
Oui. C'est sûr.
Si le temps est une...
Alors, petite question.
La perception que l'on a du temps, est-ce que c'est lié à notre degré d'évolution de la langue, du langage? Je m'explique que chez les Beauclerc, le futur n'existe pas. Est-ce qu'ils peuvent se projeter dans le temps? Enfin, ils
ne
peuvent pas se projeter dans le temps.
Il y a des langues où on n'a pas l'idée de futur, la notion de futur.
Du coup, la perception du temps est différente.
Alors là c'est une colle. Je ne sais pas quoi répondre. Parce qu'en même temps, je ne peux pas imaginer deux secondes qui n'est pas une...
Une intuition.
l'idée de l'avenir. Ça me paraît difficile. Donc je vois pas, je mesure pas l'incidence de la langue sur la représentation qu'on a du temps. Par contre, il y a une chose que là, c'est sur un autre plan, que montrent les psychologues. Enfin, c'était, je sais plus quel, c'était Françoise Dolto, la psychanalyste Françoise Dolto, qui racontait que comment un enfant qui est jaloux, parce que son petit frère vient de naître, une jalousie dévorante, affreuse, épouvantable, eh bien, comment dire, va surmonter cette expérience douloureuse par, comment dirais-je, un remaniement de la langue. C'est-à-dire qu'il va, se redéfinir autrement dans le temps. Par exemple, il va dire, voilà, c'est mon petit frère, mais il va se comparer à celui qui est avant lui, à son frère aîné, en disant, je suis par rapport à mon petit frère ce que l'aîné était et par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il va, il va enrichir son vocabulaire en acquérant un certain nombre de structures temporelles qui vont lui permettre de relativiser ses situations, de la surmonter. Voilà, donc, effectivement, la représentation du temps joue un rôle considérable, tout de même, effectivement. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le temps, lui, bouge. Hein. Mais effectivement, ça peut effectivement avoir une incidence sur la manière de vivre. Oui ?
La représentation du temps, vous avez cité la représentation de la flèche et du fleuve.
Oui.
On a aussi des sociétés qui ont des représentations circulaires et pas linéaires du temps.
Alors, là, c'est aussi il y a un risque de confusion, parce qu'on dit souvent qu'il y a des sociétés qui ont une conception cyclique du temps. J'ai entendu dire ça. Non, c'est inexact. C'est-à-dire qu'il y a une conception cyclique des événements qui se répètent, mais pas du temps. Le temps, pour pouvoir dire que les événements se répètent et reviennent, il faut que le temps, lui, soit linéaire. Sinon, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que là, encore une fois, il y a une confusion qui se joue entre ce qu'on dit du temps et ce qu'on dit des événements. Ce qui se répète, ce sont les événements. On pense qu'il y a des événements passés qui reviennent. Et pour pouvoir parler de retour des événements passés, encore faut-il se situer par rapport à un temps qui, lui, ne change pas et qui, lui, avance de manière continue. Donc là, oui, il y a une question. Mais c'est vrai que c'est une expression qui revient constamment. C'est vrai que de toute façon, il y a un cycle des saisons, beaucoup de sociétés traditionnelles, pour beaucoup de sociétés traditionnelles, il y a des événements qui reviennent.
Il y a des sociétés qui disent qu'il y a une nouvelle vie après la mort aussi, c'est là que le phénomène cyclique.
Tout à fait, mais comme les saisons. Comme les saisons, comme il y a un retour des saisons, comme il y a un retour des événements fondateurs, il croit fermement à une répétition des événements, il le croit. Mais pour justement, je pense, exprimer cette conception cyclique des événements, il faut pas considérer que le temps lui-même est cyclique. là, c'est même plus une question de représentation, c'est une question de... Donc le temps avance simplement, mais on croit que les mêmes événements qu'on a vécu dans le passé vont revenir. Ils reviennent. C'est toujours le même problème, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas confondre le cours du temps et celui des événements ? Combien même serait-il cyclique ? Oui ?
Est-ce qu'il y a eu un commencement du temps et y aura-t-il une...
Ah, alors ça, voilà, voilà une question. Alors ça, c'est une question à laquelle on va devoir réfléchir. C'est une question que se pose lui-même saint Augustin. Et qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant la création ? Non, évidemment, pour montrer que c'est une question fausse, mais c'est intéressant. Hein, est-ce que si le temps a commencé, il a commencé, qu'est-ce qu'il y avait ? Quel est le temps qu'il y avait avant le commencement ? Vous êtes dans une contradiction. Hein. Oui, ce sont là des paradoxes auxquels on est forcément confronté. Donc là, question effectivement.
En fait, dans notre travail qu'on va avoir sur le temps, on va être obligé de se donner des limites là, parce qu'on voit que dans toutes nos questions, on s'éparpille et on ne sait plus où
aller. Oh, on ne s'éparpille pas.
Un peu ce que vous avez fixé là. Vous nous avez mis des bornes sur cette notion du temps.
Oui.
Mais on voit si.
Ah non, non, mais ils ont raison. Ben, bien sûr.
On n'a pas dit qu'ils avaient tort, mais pour notre réflexion, est-ce qu'on se donne des limites ?
Ah non, non, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passeront. C'est-à-dire qu'en fait, bon, quand on abordera par exemple un philosophe, on verra que ces questions-là, elles s'enchaînent. Elles sont pas séparables. Je veux dire, si on dit Saint-Augustin, cette question du commencement du temps, par exemple, une question. Voilà, qui forcément va se poser, la question de la création. Alors, évidemment, encore une fois, là, on lit un auteur, on en suit la démarche, ça ne veut pas dire qu'on adhère. Hein,
parce que si on va s'intéresser aux astrobiologistes et tout ça...
Moi, j'ai mes limites. Hein. Je ne sais pas, je suis pas physicien, bon, j'ai quelques idées là-dessus, c'est tout. Mais donc, je ne peux pas, je ne suis pas compétent pour parler de ces questions-là. Voilà. En fait, si on peut dire que les prochaines séances confronteront les deux premières grandes conceptions du temps, que sont celles d'Aristote et d'Augustin. Alors, évidemment, parce qu'à mon avis, elles sont toujours... Oui, en un sens. Enfin, non, parce que ce n'est pas pareil. On ne parle plus du temps comme en parlait Aristote. D'une certaine façon, il pose des problèmes... comme ils seront posés après, même si, évidemment, les choses ont changé. Donc, voilà, c'est pour montrer un petit peu comment un philosophe s'empare de la question et puis essaie de la résoudre, hein, essaie de l'éclaircir. Mais c'est vrai que les questions que vous posez, est-ce que le temps est infini? Est-ce qu'il y a un commencement du temps? Est-ce que... Bah, ce sont des questions tout à fait légitimes, hein, forcément. Tout à fait. Tout à fait... Et puis, il y a aussi, bon, c'est un autre aspect de la question. C'est vrai que on pourrait très bien aussi aborder le temps, non pas cette fois-ci pour lui-même, philosophiquement, ontologiquement, mais à partir de la représentation qu'on a du temps. C'est-à-dire psychologie, histoire, culture, etc. Mais bon, c'est un petit peu... normalement, c'est pas central. Hein. On devrait pas... effectivement, mettre prioritairement l'accent là-dessus. Mais ce n'est pas inintéressant.
Est-ce que les philosophes sont nombreux à avoir ruminé sur le temps ?
Oh ben oui. Bon, ça a été, alors, pour dire les choses, c'était une question philosophique, fondamentale. C'est à partir du XVIIIe siècle que, d'une certaine façon, la physique se constitue comme science, autonome. Je vous ai dit que Newton se disait philosophe, hein, mais c'est vrai que la physique, la science, va s'occuper du temps. Le temps, aujourd'hui, c'est l'affaire des physiciens, surtout. Et il semble que, par la force des choses, les philosophes se soient, en quelque sorte, retirés un peu de la question, peut-être à tort, et se soient... cantonné dans le domaine de l'expérience du temps par la conscience, dans la phénoménologie, par exemple, Bergson ou Searle, tous ces gens-là. Et au XXe siècle, c'est vrai que les philosophes, quand ils abordent la question du temps, c'est par rapport à la question de l'existence. Voilà. C'est vrai que c'est au fond sous cet angle-là qu'ils l'abordent. Mais au départ, les premiers grands philosophes qui étaient Platon, Aristote, parle du temps au niveau cosmique. Hein. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où la physique s'est constituée comme science, séparément de la philosophie, effectivement, qu'à ce moment-là, ce champ-là a été plutôt délaissé par la philosophie. Non pas qu'elle ne s'y intéresse pas, hein, qu'il n'y ait rien à en dire, mais c'est vrai que c'est plutôt l'affaire des physiciens. Voilà, c'est un peu l'histoire qui s'est déroulée. Non, non, c'est une question, je dirais, c'est une des questions les plus redoutables et qui est au cœur de la philosophie depuis depuis le départ, hein. Mais qui, où on se confronte sans cesse à des impasses, à des contradictions, à des difficultés. Alors, on ne prétend pas les résoudre, on ne prétendra pas les résoudre, mais ce qui est bien, c'est de les penser, c'est de voir en quoi elles consistent. Celui qui veut à tout prix des réponses, tout de suite, facile, non, il sera déçu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir quels sont les problèmes qui vont se poser. Donc là-dessus, je trouve que c'est important. Voilà. Je pense que on peut s'arrêter là.
Très bien.